Je n'ai rien compris à cette question, mais Flo, tu peux y répondre.
Cette espèce d'abruti de Sam me fait mourir de rire.
Nous, on est en progression.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir pour une nouvelle émission de la Cave de Papy. C'est Flo ce soir à la présentation et je suis très content de vous retrouver hein, malgré le résultat pour débriefer cette rencontre. Donc ce soir avec moi, il y aura Andrea qui va fêter sa première de la saison. Comment tu vas Andrea?
Salut Flo, bonsoir tout le monde. Très heureux de revenir sur la Cave de Papy maintenant que niveau rentrée, je suis bien installé et tout. Et donc très content de mon retour et bon malheureusement, le niveau résultat, le score n'a pas été en notre faveur quoi. Donc c'est dommage pour une première mais très content sinon de... être là ce soir.
On a aussi Steve avec nous ce soir, le nouveau boss de la régie, et également celui qui a fait la feuille pour ce soir. Comment tu vas Steve?
Écoute, ça va bien, on est à l'heure, mais je sens que ça va être animé ce soir, vu le match qu'on nous a infligé, au moins 70 minutes qu'on nous a infligé tout à l'heure. Je pense que ça va donner des débats un petit peu animés.
C'est vrai qu'il y aura de quoi dire. Pour finir avec nous, il y a aussi Benoît qui vient tout juste de fêter ses 18 ans avec un bon Happy Meal. C'est le cadet de notre équipe et à l'image de N'Golo, il est petit et il est gentil. Comment tu vas, Benoît?
Ça va super, hein, malgré la défaite, ça va super. Comme tu dis, je mange mon McDo, mais ouais, ça va tranquille.
Bon alors, avant de commencer par les deux sujets et puis la feuille de Steve, comment vous avez vécu cette rencontre? Toi pour commencer, Benoît.
Moi déjà j'ai pas vu les 30 premières minutes et notamment le premier but donc là-dessus je sais pas, je suis arrivé dans le stade, ça faisait des arbitres enculés, je dis ok. Et le match, je sais pas trop comment décrire parce que je pense qu'on était, enfin sans vouloir trop m'avancer, on était un peu au-dessus dans la, comment dire, dans la progression du ballon, mais sinon dans le reste on s'est fait manger donc je l'ai pas très bien vécu honnêtement. Et sans parler de l'arbitrage bien sûr.
Sur l'arbitrage, on va revenir dans le deuxième sujet de l'émission. Toi, Steve, comment t'as vécu cette rencontre?
Alors, la première mi-temps, très mal. On était complètement en perdition, surtout Djikou, ce qui est étonnant de sa part. On n'avait aucun milieu de terrain. Une défense qui essayait de bricoler comme elle pouvait les vagues lilloises. Donc, partant de là, devant, ça pouvait rien donner. Et en plus, on a eu le Texier qui n'a pas arrêté... de couper le match tout le temps pour trois fois rien. Donc c'était très très compliqué. En deuxième mi-temps, c'était pareil jusque dans les 20 dernières minutes. Là, ça a commencé à devenir un petit peu intéressant. Mais après, il y a Monsieur Thomasson qui est entré en scène et qui a foutu en l'air la fin du match. Voilà le bilan du match.
Ouais, c'est un bon résumé. Et toi, Andrea, t'as vécu cette rencontre comment?
Steve a très bien résumé le match finalement. C'est vrai que les décisions d'arbitrage ont un petit peu faussé le jeu. Hein. C'est découpé des fois pour franchement pas grand-chose et tout ça. Et c'est sûr qu'il va y avoir un sujet de cet arbitre dans l'émission de ce soir. Et une première mi-temps où malheureusement on n'a pas réussi à cadrer. On a même mis du temps à le faire. On ne réalise pas la passe de 3 après les succès de face à Lens et face à Metz. Quoi. Donc c'est dommage. Et puis j'avais écrit durant l'article pour présenter la rencontre qu'on devait laver l'affront après avoir perdu contre le LOSC 3-0. Et finalement, ce n'en a pas été le cas ce soir.
Ah c'est un bon résumé. Pour revenir sur Thomasson, on a un commentaire qui nous demande est-ce que Thomasson a mérité son carton. Je pense qu'on va longuement revenir sur le deuxième débat qui parlera de Le Texier. Mais personnellement, je trouve que le rouge était mérité. Mais on en reviendra.
Il est totalement mérité.
Ah, est moi aussi, je trouve mérité. Qu'il est mérité. Ouais.
D'ailleurs, par rapport à ça, c'est plutôt marrant, mais pendant le match, j'avais tweeté que j'étais étonné de voir Thomasson ne pas prendre de jaune dans ce style de match. Et puis, 5 minutes après, il a pris un carton rouge. Donc voilà, c'était plutôt cocasse comme situation. Mais en tout cas, voilà pour les présentations. Je pense qu'on va pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On vous a préparé deux questions pour ce soir, deux sujets principaux avant d'attaquer la feuille. Donc la première question, si je dis pas de bêtises, c'est celle sur Ajorc.
C'est ça.
Est-ce que Ajorc est indispensable pour vous? Alors, je sais pas si quelqu'un veut commencer, toi Steve.
En un mot, un grand oui. Parce que devant, il a énormément manqué. Ça se voyait même que On l'a souvent essayé de le chercher, mais comme il n'était pas là, c'était compliqué. Hein. Et vu que Diallo n'est pas à jour que de la tête ou en remiseur ou choses comme ça, Gamero, il fait 1,20 m, donc c'est un petit peu compliqué pour lui le rond de la tête. Et on a surtout, moi où je l'ai remarqué qu'il manquait, c'est qu'on était ultra fébrile sur les coups de pied arrêtés défensifs. Parce que là, il est
C'est vrai qu'il
important. Là, il est
manquait sa
important.
grande taille.
Ah ouais, là, il est important à Ajorquin. Et on a vu comme on est, il y a Lille qui a enchaîné 1, 2, 3, 4 corners, je crois, en début de deuxième mi-temps. Là, moi, j'ai tremblé. Hein. Là, je me suis dit, on va se prendre le deuxième, ça va pas tarder. Hein. On l'a pris,
Et
mais autrement.
heureusement, hein, heureusement qu'on a d'autres grands profils quand même, parce que on a Niamsi, on a quand même d'autres grands profils, mais c'est vrai que malgré ces profils assez grands, il nous manquait à genre sur ce point-là,
Ouais, mais
et pas que.
quand t'as Ajor qui se met au coin des 6 mètres, ou parfois même entre le 6 mètres et les poteaux, le corner qui est un peu bas, il dégage tout de suite. Et ça, on l'avait pas ça ce soir. Et ça, on l'a senti, ça a gravement manqué.
C'est vrai. Toi, Andrea, de ton côté, un joueur qui est indispensable.
Bien sûr, je trouve aussi, je rejoins l'avis de Steve, alors qu'il nous a manqué pendant cette première heure de jeu, on l'a vu, sans doute il aurait été là, on aurait au moins pu cadrer durant la première mi-temps. Donc oui, je rejoins l'avis qu'un joueur qui était indispensable. Après, je comprends l'avis de peut-être de Julien Stéphan de l'avoir mis sur le banc pour débuter, parce que Ajorque, qu'il a quand même été titulaire tous les matchs, il les a presque disputés tous en entier, à part celui contre Paris, il me semble. Et donc oui, quand j'ai vu la composition, l'association Diallo et Gamero, je me suis dit ok, c'est pour faire souffler un peu Ajorque, qu'on a joué en semaine là contre Lens, mais c'est vrai que on voit bien que Ajorque est indispensable à notre équipe.
Alors c'est vrai, oui, tu dis, on avait besoin de le faire souffler. Là, j'ai les chiffres devant moi. Il est sorti à la 75e contre le PSG et puis en toute fin de match contre Metz. Donc c'est vrai on va dire qu'il a disputé toutes les rencontres jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y avait sûrement la nécessité de le faire un peu souffler et puis essayer de nouvelles choses. Que jouer 3 fois en 7-8 jours, c'est vrai que c'est important d'essayer de nouvelles choses, de faire tourner un peu. Donc je pense que c'était pas un si mauvais choix de Stéphane. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et c'est dans ce genre de rencontre qu'on se rend compte finalement qu'il est indispensable. Que ce soit devant, sur des phases défensives, il est indispensable. Toi, ton avis, Benoît?
Ah, mon avis, je rejoins Andreas, Steve et toi. Juste en termes de présence, même en dehors des remises, du jeu balle au pied, tout ça, juste en termes de présence, en fait, les défenses sont beaucoup moins sereines, quoi. Il y a Ajorque qui est reconnu maintenant dans le championnat comme un très bon attaquant. Et ouais, tu peux pas t'en passer. Mais après, comme disait Andrea, on peut pas en vouloir à Julien Stéphan d'essayer d'autres choses ou de le faire souffler, quoi. Mais ouais, ils ont déjà tout dit, donc ouais, il est super indispensable même.
Ah, et puis c'est un profil très difficile à défendre du haut
Ouais,
de
voilà.
très grande taille. Il y a peu de défenseurs qui peuvent, on va dire, se mêler à lui
Et
sur
puis
les arrêtés, etc.
au final, quand il est arrivé au club, il était vraiment très pivot, il bougeait pas beaucoup, mais maintenant, quand tu regardes la saison où il est arrivé, par exemple, il est beaucoup plus véloce. Et il court beaucoup plus vite, ouais, si on peut dire ça comme ça, il court beaucoup plus vite qu'avant. Donc il a aussi évolué dans sa façon de jouer, qui fait qu'il est encore plus fort et plus dangereux qu'avant.
C'est ça, et c'est pas pour rien hein, qu'on a senti son manque, parce que si je dis pas de bêtises, il est déjà à 3 buts cette saison et 3 passes décisives, impliqué dans 55% des buts du Racing, c'est ce que j'avais vu en début de match comme statistique, donc plus d'un but sur deux, donc il est vraiment indispensable sur ce
Ouais, c'est
point-là.
ça. Et puis c'est un bon finisseur, on va le dire.
Bah,
C'est clair.
il a passé un palier.
Depuis
Ah,
l'année dernière, ouais.
il a passé un très gros cap. Très,
Et
très
il s'est
gros
même
cap.
hissé parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1. L'année dernière, c'était vraiment la saison où il a bien marché. Hein. Quatrième à égalité avec Kevin Volland de l'AS Monaco, il me semble. Hein.
C'est ça, ouais.
Ouais,
16 buts et
16
son
buts.
meilleur total. Hein.
C'est ça, ouais.
Donc ouais, je pense qu'on est globalement tous d'accord. Je sais pas s'il y a des avis dans les commentaires, Steve, sur Facebook par rapport à Jorck.
Alors, pop, pop, pop. Ça ne parle pas trop de genre, ça parle de Thomasson.
Ah, on
Ça
a le même
parle
souci sur YouTube.
de l'arbitrage, ça parle de Djikou, de Liénard. Ouais, bah oui, non, non, ça parle pas beaucoup d'Ajorque.
Oh, je pense que dans le chat, ils sont prêts pour la feuille, mais c'est pas pour tout de suite.
Ouais, elle va arriver.
Mais du coup, je pense que le chapitre à genre, qu'on peut le clore là-dessus, à moins quelqu'un a quelque chose à rajouter.
Non, faudra juste qu'il n'y ait pas trop. Qu'il faut régler, en fait, que Stéphane doit régler cette dépendance à Ajorc. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Si un jour il se blesse, ou s'il y a une suspension, ou des choses comme ça, on va avoir des problèmes.
Et je pense que ça va passer par Diallo.
Bah, même Gamero, ça va passer par Gamero aussi, s'il se réveille.
Je suis sceptique pour le coup, Gamero.
Oui, moi aussi. Mais c'est ce que je disais la semaine dernière.
Je suis pas sûr qu'il soit capable d'être le pilier offensif.
Dans le chat YouTube, on nous parle de Gamero comme super sub, et c'est vrai que dans ce profil-là, il est très intéressant en tant que titulaire. Je sais pas si... Bon, là, on va pas débattre sur Gamero, mais je pense qu'il a plus le profil d'un super sub.
Ouais, Gamero, il a eu...
Après, faut lui laisser le temps, ça, c'est sûr.
Oui, enfin, là, on est quasiment à 2 mois de championnat, déjà. Hein. Ça commence à faire long. Hein.
Ouais, c'est ça, quoi.
Et Gamero, il a eu...
J'adore et tout, mais...
Il a eu... Gamero, hormis son but au Parc des Princes, il n'y en a pas eu d'autres, hein, il me semble.
Non,
il a eu...
C'est
ça,
hein.
Il a eu une occasion...
Son but, j'en ai supporté.
Ouais.
Il a eu une
occasion... Après, sur ses dernières saisons, il marquait plus trop. Hein. Bon, il jouait beaucoup en tant que remplaçant à Valence et puis à Atletico. Et sa dernière saison où il a dépassé 10 buts, c'était 2016-2017. En championnat, en tout cas, 12 buts à l'Atletico.
Ouais.
Donc, faut pas non plus s'attendre de lui qui nous plante 15 buts par saison. Sinon, dans le chat, on a Florin qui nous dit qu'Ajorc a fait la passe décisive aujourd'hui. Alors, je m'en souviens plus, mais s'il a fait la passe D, effectivement, il a 4 passes décisives, du coup, en plus de ses 3 buts.
Ça vient d'un corner, le but, non?
Ouais, c'est ça, mais...
Je vois mal Ajorc qui a un corner.
C'est le corner, il est tiré et la balle, il est au centre du terrain.
Ah oui,
elle est revenue.
La balle, elle revient sur Sissoko à droite.
Effectivement, la passe D est attribuée à Ajorc, effectivement.
Voilà.
Bah, faudrait qu'on revoie l'image des buts, mais en tout cas, c'est bon à savoir, hein, il gonfle encore ses stats.
Oui.
Et ça confirme le fait qu'il soit indispensable, puisqu'il est rentré, et on a tout de suite vu quand même des différences.
Bah, c'est
petit clin d'œil aussi sur son petit coup de gueulante. Bon, c'est pas forcément bien de cautionner, mais il a piqué un sacré coup de gueulante sur l'arbitre.
Il peut prendre.
J'ai eu ça en face de moi, j'ai dit oula.
Il peut se prendre un rouge.
Mais bon, je pense que justement, s'il a gueulé comme ça, c'est qu'il avait raison, quoi, je pense. Mmh. Ça,
non,
c'est le débat.
C'est bien lui qui met le ballon en sortie de but. Hein.
Ah, c'est lui qui la sort. Ouais, c'est lui qui la sort. Hein. Il se trompe. Hein.
C'est lui qui la sort.
Oui.
Ok, ouais.
Bon, en tout cas, le fait qu'on parle de l'arbitre, je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez. Bonne transition pour attaquer le Texier, l'arbitre du soir. Où il y a quand même pas mal de choses à dire. Hein. Peut-être parler du carton rouge. Bon, pour la plupart, je pense qu'on est d'accord qu'il est mérité. Mais
bah, au carton rouge, il y a
peut-être sujet à débattre. Parler aussi de l'intervention sur Cels quand il était dans la surface lilloise en toute fin de match. Et puis, ses nombreux cartons. Son manque de pédagogie, de dialogue, si je puis dire.
Ah, mais
on a Steve qui arbitre en amateur, donc je pense qu'il aura un avis un peu plus réservé.
Non,
plus gentil sur le Texier, non?
Gentil, non.
Je sais pas si tu veux commencer.
Parce que globalement, si tu regardes sur l'ensemble du match, le Texier ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Sauf qu'il n'a eu aucune psychologie. C'est lui qui a mis le feu aux poudres. À donner des coups de sifflet. En fait, il est tombé dans le piège lillois. Les Lillois, dès qu'ils se faisaient toucher, ils arrêtaient de jouer. Alors oui, il y a faute, mais une faute qui ne nécessite pas un coup de sifflet. Donc en fait, il est tombé dedans, donc les Lillois en ont profité, ils en ont abusé, et le Texier a continué à tout siffler à tort et à travers, même si c'était justifié à chaque fois. Sauf que ça a mis le feu aux poudres, ça a énervé un peu tout le monde, sauf du côté strasbourgeois, et les cartons ont commencé à tomber. La preuve, on en a eu quand même 9 des cartons ce soir. 8 jaunes,
9
rouge.
Cartons en tout, ouais. 8 joueurs qui ont pris des jaunes, 5 côté strasbourgeois, plus le rouge de Thomasson, et 3 jaunes. Non, 4 jaunes même.
Non, non, c'est 4 jaunes strasbourgeois et 4 jaunes lillois et 1 rouge à Strasbourg.
Ah, et plus le jaune de Stéphane, effectivement.
Oui, Stéphane ne compte pas parce qu'il n'est pas dans le jeu. Mais.
Par exemple, le carton de Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? On peut aussi en parler parce que. C'est en fin de match.
C'est en fin de
les
match.
Lillois avaient une touche, donc Stéphane récupère le ballon, il attend la balle en main. Ah, et ouais. Puis les Lillois ne viennent pas, donc il s'énerve un peu. Chose que je peux comprendre, et l'arbitre sanctionne Stéphane d'un jaune.
Après Stéphane, il s'est frictionné plusieurs fois pendant le match avec le quatrième arbitre. Donc, je pense que c'est l'accumulation des deux.
C'est vrai que ça peut jouer, c'est clair.
Je pense aussi qu'à un moment, il avait gueulé quand j'ai oublié son nom maintenant, le nouveau gardien de Lille, bah, il avait pris son temps pour dégager le ballon et ça avait agacé Julien Stéphane, notamment, cette action. Hein.
Non, mais lui, il a fait ça tout le match.
Bah, d'ailleurs, c'est le premier jaune lillois.
Il faisait ça à la 20e déjà. Hein. À mettre une minute pour dégager un 6 mètres.
C'est ça.
Donc, à force.
C'est vrai qu'il a fallu attendre la 70e pour voir un jaune côté lillois. Alors ouais. Que je pense notamment à André qui aurait pu honnêtement en manger un depuis pas mal de temps pour ce match. Et finalement, il en a même pas eu.
Non, il n'en a pas eu. Lui.
Gourvenec a fini par trouver la solution.
Bon.
C'est-à-dire
Non, c'était une petite vanne du fait que bah, les lillois ils tombent par terre, coupent le jeu. Après, c'est une façon de jouer, hein, j'ai envie de dire, mais...
Bah, ça pour le coup, ouais, c'était le jeu lillois. Ils cherchaient vraiment les fautes et nous, on tombait bêtement dans le panneau et puis l'arbitre avec. Hein.
C'est vrai qu'on est vite tombé dans le carton systématique dans ce match.
C'est nous les fautifs, c'est pas Lille sur ce coup. Hein.
Bah, oui, ça oui.
Après, le carton systématique, pas forcément, parce que Diallo, le sien, il le mérite. Il est en retard,
oui,
il est en retard, il met une semelle. Djikou, le sien, il le mérite aussi, il met un coup de coude.
Le coup de coude, ouais.
Il met un coup de coude.
Oui.
Le marchand, il vient, il gueule comme un porc sur l'arbitre, il le mérite aussi. Et Ajorque, pour l'ensemble de son œuvre, à force de gueuler tout fort quand il a gueulé nos imitants, il le mérite aussi. Les cartons, globalement, sont mérités.
C'est juste. Ajorque, je trouve qu'il s'en sort bien avec sa gueulante
oui,
sur l'arbitre.
Il s'en sort très bien.
D'autres auraient mis un rouge.
C'est vrai que ça aurait pu basculer encore plus.
Non, mais moi, là où j'étais, je l'ai vu gueuler, gros. J'étais étonné de sa part, j'avais jamais vu gueuler comme ça. Ouais, le rouge, ça aurait pu être vite parti.
Le rouge, il aurait
après,
pu
oui,
il l'avoir.
C'est pas les cartons, ouais. comme on disait.
Ouais, le problème, c'est pas les cartons.
Ils sont choquants, c'est vraiment le manque de pédagogie, de dialogue de Le Texier, le fait qu'il ait mis vraiment les feux aux poudres et qu'il n'a pas aidé à les éteindre. C'est vraiment ça, pour moi, qui me choque le plus sur cette rencontre.
Oui, parce que le nombre de coups de sifflet, on est, je dis, mais c'est bon, arrête maintenant, ça suffit. Arrête de siffler, laisse jouer. Il n'a pas laissé le jouer, il a haché complètement le jeu. Après, est-ce que ça nous a servi ou pas? Parce que c'est en première mi-temps hein, qu'il a le plus sifflé pour tout et n'importe quoi. Ça s'est un peu calmé en deuxième. Mais en première, il sifflait tout le temps. Alors peut-être que ça nous a aidé parce qu'on était quand même complètement aux fraises en première mi-temps, on va pas se le cacher. Hein. Surtout un certain Djikou. Lui, on parle de Le Texier, mais du coup aujourd'hui c'est lui qui nous fait perdre le match. Hein. C'est clairement lui qui nous fait perdre le match.
À côté de la plaque.
C'est ça.
C'est le coup final de la performance.
Mais sinon Le Texier, à part son manque de pédagogie, on va certainement, je pense que si on va sur le chat YouTube et Facebook, ça va. Voilà, rien d'anormal.
Bah YouTube on me dit que Le Texier c'est rien par rapport à la masterclass qu'il est en train de faire. Qui est en train de faire Bastien de Péchy, Lyon-Lorient. Pour avoir vu le début du match de Lyon-Lorient, bon là on fait une mini parenthèse, c'est vrai que j'ai vu Lyon prendre un rouge à la 15e. Assez...
Je l'ai aussi vu, ouais, le début de Lyon-Lorient.
Ouais, ouais assez sévère ouais. Quand même.
Là pour le coup, le carton il est pas justifié quoi.
Après, on va pas s'éterniser sur les autres rencontres, mais c'est vrai que Le Texier c'est pas le seul arbitre, on va dire, à mettre les feux aux poudres.
Je vais juste
revenir dans une phase où l'arbitrage quoi.
Je vais juste revenir sur un truc, un fait de jeu en fin de match. Quand Seltz monte sur le corner, qui a un pied au Lillois, parce que ça, on me l'a déjà dit, et je vais donner le point de règlement. Le pied de Lillois est haut, mais il n'y a pas de contact direct avec Seltz. Donc au mieux, c'est un coup franc en direct. La VAR ne revient pas sur les coups francs en direct. Et deuxièmement, Seltz baisse la tête, il se baisse. Si le joueur se baisse, le pied haut est plus difficile à siffler. Justement parce que le joueur se baisse. Donc que Le Texier n'ait pas sifflé ça, ça peut se comprendre. Et que la VAR ne soit pas revenue dessus, c'est normal, parce que ça aurait été un coup franc en direct. Et la VAR ne revient pas sur le coup franc en direct.
Moi j'ai une question pour toi, Steve, qui est arbitre amateur.
Oui.
Ça me trotte toujours dans la tête à chaque fois. À un moment, on a vu Ajor faire faute sur le gardien de Lille. Bah, si, il y a eu sifflet faute d'Ajor sur le gardien de Lille. Alors qu'un joueur qui n'a pas bougé, c'est le gardien qui allait vers lui et sans parler contre lui.
Alors,
ah oui.
Sur ce...
J'aimerais comprendre cette règle de... des attaquants contre les gardiens, s'il te plaît.
Alors, sur ce...
Parce que chaque fois, ça me met hors de moi.
Sur ce coup-là, c'était... c'est une erreur. Parce que...
On est d'accord.
Parce que...
Ajor qui fait rien du tout, il bouge pas, hein, c'est Ajor... le gardien qui va vers lui. Hein.
Non, non, Ajor ne fait rien du tout, il est même poussé dans les airs par les défenseurs lillois, donc il percute le gardien.
Ouais.
Voilà. Sauf que la règle dans le foot, elle est claire. Mais ça m'est arrivé. Alors, c'est, le cas m'est arrivé la semaine dernière. Dimanche dernier, j'ai arbitré un match. Et il y a eu un centre. Le gardien est sorti au niveau du point de pénalty pour capter le centre. L'attaquant est allé à la rencontre. Ouais. Ils se sont rentrés dedans. Le ballon est retombé. Il y a un attaquant qui a repris le ballon sur la main d'un défenseur. J'ai sifflé pénalty.
Ah.
J'ai sifflé pénalty. Tout simplement parce que le gardien est protégé de tout contact dans ses 6 mètres. Une fois qu'il sort de ses 6 mètres, une fois qu'il sort de ses 6 mètres, tu peux aller au contact. Et il n'y aura pas faute. Ça dépend du contact après. Si tu vas comme une brute dans le dos, là il y aura faute, bien sûr. Mais ça devient un joueur comme un autre, le gardien, dès qu'il sort de ses 6 mètres.
Ça marche, ouais.
Ça, c'est la règle.
Okay. En tout cas, c'est très bien que tu précises tout ça, parce que c'est vrai que parfois, on a tous un peu du mal à être objectif vis-à-vis des décisions arbitrales. Et c'est vrai que toi qui connais bien du coup là, qui connais bien le fait d'arbitrer, bah, qui arbitre justement, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un avis justement un avis plus poussé. Et c'est aussi bien du coup.
Et je vous dis pas le tsunami que je me suis pris quand j'ai sifflé penalty. Hein. La défense qui gueulait parce qu'il faut sur le gardien, mais non.
Arbitre en amateur, ça doit être simple tous les jours.
C'était compliqué de calmer tout ce monde, mais bon. Voilà, le point de règlement, c'est celui-là.
Bon, en tout cas, voilà, pour la petite aparté, je sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à rajouter par rapport à le texier ou si on peut passer à la feuille.
Écoute, à part des critiques sur la vue, qu'en était très mauvais sur le chat Facebook, je sais pas ce que tu vois sur YouTube, mais sur Facebook, l'arbitrage mauvais, comme tous les week-ends. Voilà.
Bah, y a Rajestata qui te remercie pour cette règle des 6 mètres. C'est vrai que c'est intéressant, c'est bon à savoir. Il y a Mathéo Meyer qui me dit qu'en ce moment, beaucoup d'entraîneurs se prennent des cartons comme l'entraîneur de Metz. Après ça, je trouve que chaque saison, c'est pareil. Il y a...
Enfin, Antonetti, je suis désolé. Lui, j'aimerais pas l'avoir sur un banc.
Son mime du boxeur, là, c'était plutôt pas mal.
Ah, mais ça deviendra mythique, celui-là.
Plein d'œil à Guillaume Vague qui nous partage tous les jours une photo de ce même, justement. C'est la conversation de la cave. On va pouvoir passer du coup à la feuille de Steve ce soir qui nous a concocté du coup cette feuille. On va pouvoir voir ce qui nous a mis, des têtes de mort, des cœurs. On verra. Suspense,
elle devrait s'afficher dans quelques secondes pour vous. Moi je l'ai déjà sous les yeux.
C'est bon, normalement vous l'avez sur vos écrans. Donc une feuille, vous voyez pas mal de gris, de têtes de mort. Il y en a pas mal par-ci par-là, quelques petits cœurs aussi.
Un petit peu disséminé. La...
Ouais, c'est ça.
Donc on va commencer
un peu partout, voilà.
On va commencer par celle, ça.
Bah oui, je te laisse démarrer sur notre grande muraille belge.
Cels, moi je lui ai rien mis parce que bah, déjà sur les buts qu'il prend, bah, il peut pas grand-chose. Hein. Il se fait fusiller aussi mettre sur un centre retrait première mi-temps, l'autre c'est un penalty. À part ça, il a pas d'arrêt à faire ou très peu. Il a deux interventions qu'il fait bien. Il a pas fait un énorme match, il a pas fait un mauvais match. Pour moi, voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez.
Bah moi, je rejoins plutôt l'avis de Steve aussi. C'est vrai que Lille a dû cadrer bien 6 ou enfin, peut-être même plus de fois le ballon. Donc, à mon avis, on aurait peut-être pu en prendre peut-être plus. Et donc, je rejoins l'avis de rien mettre à Cels. Parce que même si on a encaissé 2 buts, l'addition aurait pu être encore plus salée.
Bah en début de match, il me semble que c'était en début de match, il a fait un très, très beau, très, très beau arrêt. Et
bon, c'est ça, ouais.
Ça nous permet quand même de souffler un peu, parce que si on prend un but dès le début de match, on aurait peut-être pris une valise derrière. Et j'ai quand même bien aimé son match, parce que voilà, sur les 2 buts, il peut rien faire. C'est compliqué de mettre un cœur quand tu prends 2 buts et que tu perds, mais je lui aurais peut-être quand même mis un petit cœur, honnêtement.
Ouais, je te rejoins, Flo. Je pense que le petit cœur, moi je suis plutôt d'accord avec vous, Steve et Andrea. Mais je pense que moi, j'aurais mis un petit cœur juste pour le fait qu'il a pas plongé, il a pas plongé avec la défense, quoi. Il est vraiment resté dans son match solide. Et c'est le défaut de nombreux gardiens quand ta défense va mal, souvent les gardiens ils plongent avec. Là il a pas plongé, il est resté solide comme je dis. Ouais, j'aurais mis un petit cœur comme Flo.
Après, voilà, les cœurs, les têtes de mort,
c'est subjectif.
On va dire au jugement de chacun, on a tous un jugement un peu différent. Voilà. Dire, le fait de rien lui mettre, ça me choque pas non plus. Entre un petit cœur et rien, il y a peu de choses, on va dire. On va pouvoir passer du coup à la ligne des trois défenseurs centraux. Je sais pas par qui tu veux commencer, Steve. Tu veux commencer par Djiku ou par Niamsi?
Non, on va finir par Djiku.
On va finir par le pire.
Voilà, on va commencer par celui qui a fait, on va dire, entre guillemets, le moins mauvais match dans la défense, c'est Niamsi, selon moi. Il a fait un match correct, il n'a pas fait spécialement d'erreur, parce que les buts lillois, bah, ils viennent de quelqu'un d'autre. Lui, il a juste pu constater les dégâts. Donc, il n'a pas été extraordinaire, il n'a pas été mauvais. C'est le même constat que Celtz, en fait. Il a fait un match correct, d'où son rien.
Ouais, c'est ça, il a fait son match, quoi.
C'est ça, je rejoins
votre avis, ouais. Ah, disons qu'il a été un peu au-dessus quand même des deux autres centraux, et surtout Djiku. Par rapport à Djiku, il n'y a pas photo. Il a quand même été un minimum solide. Après, parfois, il se faisait prendre de vitesse. Il a quand même un très, très gros gabarit. Donc, c'est compliqué de défendre, surtout sur Wea Ikone, qui était vraiment très en jambes ce soir. Très, très explosif à la pointe de l'attaque illoise. Donc, ouais, il a fait un match en plus, un match ok.
J'ai la sous les yeux, du coup... sur 9 duels, c'est 4 duels remportés, quoi.
Ouais, okay. Il a pas la moyenne.
Ouais, c'est ça.
Merde.
Sinon, le marchand, il n'y a pas grand chose dans lui non plus. Il était un peu fébrile. Il n'a pas été mauvais. C'est pas été une catastrophe, moins que son compère de l'autre côté. Mais c'était pas le marchand qu'on a vu contre à Lens ou contre Metz, en fait. Il était un peu en dedans. Des relances moins propres que des matchs précédents. Donc c'est pour ça qu'il se prend une toute petite tête de mort.
Ouais, c'est ça. C'était un peu moins clean, sans être non plus catastrophique. Et puis après, il y a aussi son jaune. Alors, j'ai pas vu la contestation, mais bon, s'il prend un jaune pour contestation, pour moi, contester, même si des fois les décisions sont dures, pour moi, c'est complètement débile. Donc je pense que je l'aurais mis aussi une tête de mort.
Il a braillé, en fait. Il a braillé sur le Texier comme Ajorque a gueulé sur l'assistant.
Ouais, donc ouais, voilà, il a contesté et contesté. Il a contesté, tu parles tranquillement, et contesté, tu gueules, quoi.
Oui, voilà. Même si, j'avoue que je suis le premier à en rigoler quand je vois ce genre d'image à la télé ou quoi. Je vais pas faire le sein, mais, mais c'est pas bien, quoi. Je peux pas cautionner.
Bah, je pense que les mots n'ont pas dû être très jolis, vu avec la rapidité que...
Bah en fait,
le carton jaune lui a été adressé.
En fait, le Texier siffle la faute de Djiku, où il y a complètement faute. Et le Texier est même pas, est encore en train de courir. Hein, il est même pas encore arrêté qu'il a déjà le marchand sur le dos qui lui braille dessus comme un porc. Donc le Texier n'a pas réfléchi. Il a vu, oh, toi tu brailles, hop, jaune. Retourne ta surface.
Bah, ça lui a permis de dégainer les cartons plus vite que son ombre, hein, tel Lucky Luke.
Et dans les deux secondes suivantes, il donne le carton à Djiku, qui le mérite aussi. D'ailleurs, on peut passer à Djiku. Quelle transition.
Bah vas-y, Djiku, tu l'as mis la plus grosse tête de mort possible, je crois.
C'est la plus grosse, oui, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Le premier but, le 1-0. Le 1-0, il est à 300% pour lui.
C'est sûr. Ouais,
bah. Je sais pas comment il peut se faire déborder comme ça.
Non, mais le pire,
par la ligne...
Mais en plus, il a le ballon en distance de jeu, tu te sens en danger, à la limite, poum, tu balances une mine en touche. Voilà,
même un corner, alors il
y a. Ou un corner, tu t'emmerdes pas. Mais te faire prendre
Qui déborde
Je sais plus. Merde.
Attends, je vais regarder. Je sais plus qui c'est. La passe D, c'est Wea, donc c'est Wea.
Ouais, c'est Wea.
C'est Wea qui le déborde.
Il s'est bougé par Wea, sérieusement?
Ah, il s'est fait bien bouger. Hein. Tu l'as pas vu, du coup?
Mais il s'est fait prendre.
Bah non, je t'ai pas encore au
stade. Il s'est fait prendre le ballon.
Il s'est fait complètement. Le long de la ligne de but, mais vraiment,
c'était incroyable, quoi. Il nous a pas habitué à ça, quoi.
Il se fait prendre le ballon comme un poussin,
touché, quoi.
Même en débutant, on voit pas des comme ça.
Victorien dans les commentaires, c'est Wea qui déborde. Non, et puis en plus, il le sent venir dans son dos, genre vraiment, il arrive de très loin, il veut couvrir pour le 6 mètres et il se fait complètement bouffer. Parce que pas d'autre mot, en fait, il se fait bouffer.
Je pense que, comme moi à la télé, les gens dans le stade n'ont pas dû s'attendre du tout à ça. Tu vois le ballon qui file vers les 6 mètres, Djiku qui est en couverture, tout le monde dit c'est bon. Limite, on se penche déjà sur la suite. Mais non. Donc il se fait ça. Derrière, il balance un coup de coude. C'était son deuxième coup de coude en 3 minutes à Djiku. sur la faute, là où le marchand prend aussi. Bon, il ne le fait pas exprès, hein, mais il met un bon coup de coude. Derrière, il y a le penalty aussi. Quelle aussi une faute de débutant. Mais non, et bah, la preuve, la sanction ultime, c'est que Stéphane l'a sorti.
Ouais, donc, c'est... Franchement, c'était pas plus mal, je pense.
Bah, on en prenait 4. Hein,
il a de la chance de ne pas avoir pris un rouge. Hein.
Non, le rouge aurait été sévère.
Un rouge sur sa faute, ça aurait été.
Non, le seul penalty, non, le rouge, il aurait été sévère. Parce que c'est pas volontaire, il est juste. C'est maladroit. C'est hyper maladroit, mais c'est pas. C'est pas méchant.
Ah, d'accord. C'est ça, peut-être ouais. Manque de concentration ou quoi, quoi.
Après, voilà, malheureusement, ça arrive, même si en général, c'est, on va dire, le patron de la défense. C'est vrai que ce soir, il était pas en confiance. Il a coûté le premier but, donc je pense que ça l'a encore mis plus en doute. Et puis voilà, derrière, il se passe le penalty et les nombreuses fautes. Donc voilà, il n'est pas en confiance, on ne remet pas en cause le joueur, mais sur ce match-là,
ouais, c'est ça.
Il mérite totalement une tête de mort comme ça.
Ben moi, c'est son plus mauvais match que j'ai vu depuis qu'il est au Racing.
Ah, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo. Hein.
Je pense aussi, ouais.
Je suis d'accord, oui, clairement.
Heureusement, ouais.
Alors, on espère qu'il nous en refera pas un comme ça de sitôt, en tout cas.
Non, on va croiser les doigts.
Il y a Florent dans les commentaires qui nous dit que Djiko a voulu être trop propre et il est sorti de son match après cette erreur. C'est possible. C'est vrai que ça joue, hein. L'erreur, forcément, ça joue sur le reste de son match derrière. Oui, on va pouvoir passer ouais.
Attends,
à
juste,
Cassie et Lénard.
Il y a juste Nicolas Charpentier sur Facebook qui dit que Djiko a tout raté. C'était pas son soir. Sûrement son pire match depuis qu'il est chez nous. Au moins, il nous rejoint là-dessus.
D'accord.
Et il y a Franck Alsace qui dit il ose faire la gueule en sortant. Après, peut-être qu'il faisait aussi la gueule par rapport à
sa
match.
Perf,
pas ouais. Que ça sortait. Voilà, il s'est dit merde, enfin, c'est un match de merde. Voilà, il allait pas sortir avec le sourire dans tous les cas.
Oui, c'est pas André Di Maria, quoi.
Voilà. On va pouvoir passer du coup à Lienard et Cassie. Je sais pas si tu veux commencer par.
Alors, je vais commencer par celui sur les choses. Il y a le moins de choses à dire, c'est Cassie. Cassie, il a fait son match. Il a fait son match. En première mi-temps, il se trouvait quand même assez bien avec Thomasson. C'était une des seules satisfactions qu'on pouvait avoir en première mi-temps. Il a beaucoup couru. Il a fait beaucoup d'appels, surtout dans le vent, parce qu'il n'avait jamais le ballon quasiment quand il faisait un appel. Et défensivement, ça a été correct aussi. On ne peut pas lui reprocher grand-chose sur ce match. Donc, il n'a rien.
Ben, je reviens sur ce que tu disais par rapport à l'entente Cassie-Thomasson. C'est vrai qu'en première mi-temps, ils se trouvaient plutôt bien les deux. J'avais même tweeté dessus à la mi-temps et je trouvais que c'était justement une des rares satisfactions de ce début de match. C'est vrai qu'ils se trouvaient pas mal. Après, voilà, Cassie recevait rarement les ballons. Mais il y avait quand même une bonne entente. Ils tentaient des choses tous les deux, donc c'était intéressant. Après, sur la deuxième mi-temps, on l'a quand même moins vu. Et comme toujours avec Cassie, il y avait quelques déchets, des courses un peu approximatives. Voilà, dans l'ensemble, je pense qu'il méritait ni cœur ni tête de mort. Je sais pas ce qu'en pense Benoît ou Andrea.
Ouais, je pense ouais, pareil. Bah, j'aurais mis. Bah, du coup, oui, je rejoins votre avis. Bon, je trouve quand même qu'il y a eu quand même pas mal de pertes de balles de Cassie. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est peut-être celui qu'en perd le plus. J'en sais rien, mais c'est ça que je voulais souligner, quoi, sur Cassie. Bon.
Bah, ouais, Benoît, je te laisse répondre.
Moi, je l'ai souvent vu s'en mêler les pinceaux, surtout quand il était dans des, comment on appelle ça, quand il était pris par deux ou trois joueurs, quoi. Bon, après, c'est pas évident d'être face à deux ou trois joueurs, mais il y avait pas mal de petites pertes de balles comme ça sur des passes tentées ou des contrôles ratés. Mais ouais, sinon, Cassie, pas grand chose à dire, un neutre.
Dans les commentaires, on a Ongani qui nous dit que Cassie est lent côté droit, ça se voit qu'il a pas ses repères de ce côté. C'est vrai que les
ouais,
derniers
ouais,
matchs,
ça,
il les a joués du côté gauche et on le sentait quand même plus à l'aise, plus en jambes. Il faisait quand même des bonnes performances et on l'avait souligné hein, dans les dernières émissions. Donc peut-être qu'effectivement, de ce côté, il est moins à l'aise. On verra au prochain match s'il sera reconduit ou peut-être qu'on aura l'honneur de revoir Fila. Je sais pas. On verra.
Donc, j'étais un peu déçu de pas avoir Fila sur le terrain personnellement.
Un peu déçu aussi pour ma part, mais.
Ouais. Je comprends le fait d'avoir mis Gilbert sur le banc, mais de ne pas avoir mis Fila pour le remplacer, ça fait un peu de mal. Mais...
Après, peut-être que Stéphane estime qu'il n'est pas au niveau, pas encore en jambes.
Oui, on ne sait pas.
Je ne sais pas.
Et on a Nicolas Charpentier, on a Nicolas Charpentier sur Facebook, encore lui, qui dit que dans ce système de jeu, il faut de vrais latéraux, des pistons, des vrais bons pistons, ce que ne sont pas Lienard et Cassie. Ça, on est entièrement d'accord.
C'est vrai, bah, on avait souligné ce manque de recrues à ces postes. même si sur les autres postes on a réussi à se renforcer. C'est vrai qu'il manque encore un ou deux joueurs. On va pouvoir passer à Lienard, je pense. Tu as une assez grosse tête de mort.
Ah ouais, putain, sa première mi-temps. En fait, il a sa tête de mort juste pour sa première mi-temps. Je crois qu'il y a. Sur tous les ballons qu'il a eus, je crois qu'il y a deux passes qui sont passées. C'est tout. Tout le reste, c'était ou trop fort. Il y a un truc qui était marquant, c'était on avait un coup franc, il a voulu la donner latéralement à Thomasson, mais il lui a mis une minasse. Personne ne peut la chercher, celle-là. Même Mbappé, peut-être un sprint, il ne la récupère pas. Et ça, c'est à l'image de son match. Il a fait. Pour une fois, on ne l'a pas vu gueuler. On ne l'a pas trop vu gueuler.
C'est vrai.
Mais il a fait un match, c'était à vomir. Il était vraiment, vraiment pas bon. Pas au point de Djikou, mais il était vraiment pas bon. Il n'était pas en place.
Moi, je me rappelle d'une balle en deuxième mi-temps, ou en première mi-temps, pardon, on pouvait partir sur un contre. Il a offert la balle sur un plateau d'argent à Lillois, et derrière, on a failli. Bon, ça n'a rien donné, mais on aurait pu s'en prendre un, quoi.
Donc pour moi, sa grosse tête de mort moyenne, c'est une 3 sur 5. Il la mérite.
Andrea, Benoît, votre avis sur Lienard ?
Moi, honnêtement, sur Lienard, toujours la même chose avec Lienard. C'est les mêmes passes tentées qui vont de la gauche vers le centre, mais qui sont toujours dans les pieds d'un adversaire, quoi. Moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi faire avec Lienard. Je vais être honnête. Là, je sais pas quoi dire. C'est toujours la même chose.
Mais justement, là, je voulais regarder un petit peu les stats, là, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire après le match. Et du coup, bah, je vous donne l'info que Dimitri Lienard a réussi que 67% de ses passes, quoi.
Ouais, voilà. C'est des chiffres qu'on a quand même l'habitude de voir avec lui assez bas, on va dire.
Oui, hein. C'est ça, voilà. Donc, c'est encore une fois pour souligner ça, quoi.
Mais moi, je comprends pas ce que
les... Après, il est sur un poste où on n'a pas forcément le plus haut taux de passes réussies parce qu'on centre beaucoup, etc. Je crois que c'est compté dans les passes, tout ce qui est centre.
Oui.
Donc, c'est normal qu'il ait un taux un peu plus faible, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gâchis.
Après, il a fait combien de centres?
Parlons de ses centres.
Il a pas fait de centre.
Hein, dans le dos aussi. En plus, j'en ai pas vu, moi.
J'en ai vu un bon au centre de Lienard en deuxième mi-temps vers la 80 dans le dernier quart d'heure, je crois, 60, juste avant le but, je crois. Sans doute il en a fait un, mais c'est le seul. Mais moi, je sais pas ce qu'il fait encore sur le terrain, Lienard, parce que moi, je t'aurais mis à la place de Stéphane Cassie à gauche, Fila à droite. Merci, au revoir.
Mais oui, c'est ça, moi, que je voulais, en fait. Je suis arrivé dans le stade, j'ai vu Lienard Cassie à droite. J'ai dit, what the fuck.
Gilbert, j'ai compris que c'était une punition, mais j'ai pas compris.
Parlons de Gilbert, j'aimerais bien parler de Gilbert. Moi.
Après, les remplaçants, les faits en. Vas-y.
Bon, alors, pire, on est sur les. Ouais, vas-y.
C'est quoi, Gilbert, il est rentré à 55e, 60e, je crois, à peu près, non?
Ouais, c'est ça.
Je vais te dire ça tout de suite. Ouais c'est ça.
Il reste comment à la 80e, il fait pas les replis défensifs par contre. Même en termes de centre, et c'est moyen. Je reconnais pas le Gilbert qu'on a eu fin la seconde partie de saison l'année dernière.
Après Gilbert, Gilbert, je veux pas le.
Ouais, j'étais.
Pas l'excuser ou quoi que ce soit, hein, mais déjà il arrivait tard. Il arrivait très tard. C'est un nouveau système aussi pour lui. Hein. Sauf que lui, il l'assimile beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus dur d'assimiler le système à son poste que Le Marchand ou Niamsi, hein, qui eux sont en défense centrale. Hein.
Non, mais là-dessus, je suis d'accord, mais à la 80e, t'as l'impression qu'il est déjà crevé et il fait plus les replis, quoi. Moi, j'ai été déçu de son comportement. Je sais pas si on peut appeler ça le comportement, mais ouais, ça m'a déçu en tout cas. Peut-être que je m'attends à trop. Peut-être qu'on s'attend à trop au final. Mais. Voilà, c'est juste pour dire que j'étais déçu de sa rentrée. Non, et que la petite de mort aurait été mal pour moi.
On passe à Oulu.
On a donc Yannick qui nous demande, est-ce que Fila avait un petit pépin physique peut-être, parce que vu les premières prestations, dur de se dire qu'il ne soit pas titulaire sans Gilbert. Qu'il avait eu de soucis.
Non, parce que hier en conférence Hier en conférence de presse, Stéphane a dit qu'il n'y avait pas de pépins physiques sur d'autres joueurs que sur Lienard, Waris et j'ai oublié le dernier. mais c'était pas Villa.
Sissoko, non?
Sissoko.
Sissoko, ouais.
Bon, après, peut-être qu'il rentre pas totalement dans les plans pour l'instant, qu'il est plus là comme doublure, et qu'on le verra plus tard dans la saison.
Ce serait bien qu'on le voit, ça évoluera. Qu'on le voit vite, parce que Lienard, j'en ai marre.
Ouais, mais le problème, c'est que Lienard, maintenant, il est capitaine, quoi.
Ouais, non, mais tu donnes le brassard à quelqu'un d'autre.
C'est pour ça aussi qu'il est là avec
Casper. Ouais, le débat sur le capitaine, on l'a déjà eu. Il y a Djiku qui peut aussi l'être. Je pense que même Niamsi, bon, il vient d'arriver, mais avec sa mentalité, je pense qu'il a une mentalité de capitaine aussi.
Mais vous avez vu
que... Ou Cels, bon, moi, j'aime pas les gardiens capitaines, mais voilà, il y a d'autres possibilités.
Vous avez vu qui a fini avec le brassard à la fin du match?
Non.
Ajork.
Ajork, ah, ouais. Après, un attaquant capitaine, c'est aussi compliqué, je sais pas. Bon, on va pas revenir là, refaire un débat là-dessus, mais moi, je vois plutôt un défenseur comme capitaine, honnêtement.
Passe au milieu.
Bah après, pour continuer le... Ah bah, allez-y.
Je demandais si on
passe... Non, j'ai pas entendu.
Je demandais si on passait au milieu.
Ouais, on peut passer au milieu.
Ah,
passer au milieu. Oui, je te laisse traiter les trois ensemble ou tu veux faire un par un?
Je vais traiter Aoulou et Bergard ensemble et Thomasson un petit peu à part. Alors Aoulou,
Aoulou... Je te laisse ouvrir le bal.
Et Bergard, en fait, ils ont fait leur match. Aoulou, il a raté beaucoup de choses, il a fait des fautes. Par contre, il a récupéré beaucoup de ballons. Hein. Il a récupéré vraiment beaucoup de ballons. Je pense que si en première mi-temps, on ne prend pas entièrement l'eau, c'est grâce à lui. De ce que moi j'ai vu, hein. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et Bellegarde a fait du Bellegarde. En première mi-temps, il a fait aussi des sacrés replis défensifs. Il a tenté des choses devant, mais comme le milieu était complètement dominé par Lille, c'était un petit peu compliqué pour lui en première mi-temps. Mais moi, je trouve qu'il a fait son match. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Bon, je laisse Benoît ou André à commencer. Je prends beaucoup la parole depuis avant.
Moi, je te rejoins aussi. Je trouve qu'Aoulou a fait une copie à peu près convenable. Je crois qu'on l'a vu, enfin, c'est bien deux fois. Enfin, moi, j'ai noté deux fois qu'on l'a vu s'illustrer face au but. Bon, c'était pas cadré les deux, je crois, mais bon, au moins, il a tenté des choses. Et puis, oui, comme tu as dit, des ballons précieux récupérés. Dans son milieu et moi j'ai trouvé que c'était un match assez correct et je valide le petit cœur pour Aoulou.
Et pour toi Benoît?
Pour le Bellegarde, ouais, très bon. C'est lui qui nous avait manqué à Lens par exemple pour être performant de balle au pied. Bellegarde, comme disait Steve, hein, c'est du Bellegarde, hein, c'est bon. Aoulou, je serais peut-être un peu plus nuancé. Je trouve pas qu'il était si bon que ça pour mériter un cœur. Bon, après, c'est pas scandalisant. On va dire, je les ai pas trop vus du match et qu'ils ont fait un bon match.
Alors, dans les commentaires, on a KSR qui nous dit un message très intéressant. Je trouve que Bellegarde, très sous-côté en général, il fait beaucoup de travail défensif. Pour moi, c'est le joueur de l'ombre. On le remarque pas beaucoup, mais fait un gros travail. C'est vrai qu'on en avait déjà discuté sur d'autres émissions et c'est vrai qu'il est très présent dans ce rôle-là, dans les replis défensifs, il est très important au milieu de terrain. J'aurais peut-être mis un cœur un peu plus gros hein, sur ce match, je l'ai trouvé quand même très intéressant, mais comme souvent d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'il est assez constant, il confirme de plus en plus qu'on attend de lui. Pour Aoulou, j'aurais peut-être rien mis, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je ne l'ai pas trouvé incroyable non plus. Par rapport à Aoulou, justement, il y a Scope qui m'a envoyé un petit message qui disait qu'il pouvait pas venir dans l'émission à cause de son réseau, mais qu'il est scandalisé de voir un cœur pour Aoulou, sachant que quand Sissoko rentre, on a vu la différence d'apport entre les deux. Alors, je sais pas si t'as un truc à lui répondre, Steve, et si tu veux revenir aussi sur la performance de Sissoko en même temps.
Bah, Sissoko, c'est le seul des remplaçants qui a un cœur, si vous regardez bien. C'est avec sa rentrée avec Ajor qu'en fait, c'est là qu'il y a eu un début de révolte. Un début de révolte qui a un peu tardé à porter ses fruits. Mais il y a eu un début de révolte. Et effectivement, c'était beaucoup plus posé. Il y avait moins de précipitation quand Sissoko est rentré. Après, c'est chacun son point de vue. Mais moi, je trouvais que Aou... Moi, comme je disais tout au début, Aoulou, il a perdu des ballons. Il a fait des fautes, on est d'accord. Mais moi, je lui ai mis son cœur, il
Aoulou,
le... Aoulou, voilà. Mais son cœur, il le prend pour le nombre de ballons récupérés. Pour moi, je trouve ça impressionnant, le ballon qu'il a récupéré. C'est comme je disais tout à l'heure.
Comme à Lens, en fait.
Comme
comme à Lens, il a fait, je crois que c'était 9 ballons récupérés, je crois que c'était le plus haut total du match.
Ouais, mais à Lens,
Il me semble.
je l'avais même pas remarqué, ça, tu vois, je l'avais pas vu. Alors que ce soir, je les ai, justement, je me suis dit, je vais bien le regarder ce soir, et il a récupéré une
Ouais,
grosse
voilà.
quantité de ballons. Il a vraiment récupéré beaucoup de ballons.
Bah ouais, comme le dit Yannick Ong dans les commentaires, il est très bon à la récupération. C'est vrai que à la récupération, on l'a beaucoup vu ce soir. Là. Sur ce point, c'est indiscutable.
Et on peut
Si on
passer à
si
Thomasson.
vous avez encore quelque chose à rajouter, peut-être sur
Ouais,
Aouar.
j'aimerais juste revenir sur tes propos pour préciser un truc, Flo. Tu
Vas-y.
parlais de Bellegarde et l'aspect défensif, ça a précisé qu'il est formé milieu défensif à Lens, de
C'est
base.
vrai. C'est
Vois,
vrai.
je voulais juste préciser ça.
Ah oui, c'est vrai, ouais, tout à fait.
Effectivement. Après, ouais, il n'est pas que important dans l'aspect défensif, du coup, c'est vrai qu'il a
Ouais.
un profil
Ouais, mais on va
tellement
dire
plus
que
équilibré.
maintenant tu te dis Bellegarde, c'est offensif, mais au final ça a des grosses qualités défensives aussi, quoi. Vu
Bah
qu'il est formé défensif.
c'est le système qui veut ça. C'est le système qui veut ça. Quand t'es
Ouais.
que trop au milieu, t'es obligé de baisser d'un cran quand l'adversaire a le ballon.
On va passer du coup à Thomasson, notre numéro 10, qui a écopé en plus d'un carton rouge d'une petite tête de mort. Je te laisse commencer, Steve.
Bah, j'ai hésité à lui en mettre une plus grosse parce que après son rouge, il le prend parce que je pense qu'il devait être cuit, il était en retard et ouais, il met une semelle pas forcément volontairement. Mais il a été invisible, Thomasson. Thomasson a été invisible. Il était toujours à contre-temps. Quand le jeu allait d'un côté, il allait de l'autre. Donc partant de là, c'est très compliqué. Il y a juste ce qui sauve un petit peu son match, c'est les tentatives de construction, on va dire, qu'il y a eu en première mi-temps avec Cassie, l'entente qu'il avait avec lui. Mais sinon, à part ça, c'était très compliqué. Mais ça reste un poison parce que qu'est-ce qu'il court? Qu'est-ce qu'il court? Moi, j'aime pas l'avoir sur le dos. Et c'est pour ça qu'il a pas. J'ai hésité en lui mettre une tête de mort un peu plus grosse, mais je me suis dit non, on va rester sur une petite parce qu'il a quand même sacrément, entre guillemets, emmerdé les Lillois aujourd'hui.
Bah c'est vrai, comme on le soulignait avant et comme tu l'as ressouligné, il y avait la bonne entente avec Cassie. Après, moi, je trouve que sa première mi-temps était pas dégueulasse. En deuxième mi-temps, bon, on l'a beaucoup moins vu et puis il prend un carton rouge mérité. Hein, il est complètement en retard. Peut-être pas volontaire, mais une faute débile. Donc voilà, rouge direct. Ouais, première mi-temps, ça va, mais seconde mi-temps, effectivement, il était pas là. Mais comme tu dis, ça reste un poison. Il est très chiant à courir. Il court beaucoup. Il est très important dans l'entrejeu et bon voilà, une tête de mort pour ce soir, j'aurais mis pareil. Je sais pas ce que t'en penses, Andrea, toi, de
Moi,
la
je pense que,
performance
enfin, j'aurais mis la
de
tête de mort peut-être un petit peu plus grosse, peut-être pas comme Djiku, mais enfin niveau moyenne, quoi, parce que quand Sissoko marque le but qui nous permet un petit peu d'y croire à nouveau, 2 minutes après, on prend ce carton rouge et on se dit bah maintenant chercher l'égalisation risque d'être compliqué, quoi. Donc en fait, il y a une petite euphorie qui revient avec le but de Sissoko. On se dit et si on allait arracher un point, ce serait super et tout. Et 2 minutes après, on prend ce rouge qui vient tout plomber et anéantir bah, nos espoirs qui venaient de renaître juste avant, quoi.
Après, je trouve que bon, c'est vrai que le rouge fait très mal, mais il n'y a pas eu tant que ça d'accalmie. Après son rouge, les joueurs étaient quand même toujours aussi concernés. Après, voilà, il y avait le handicap d'un joueur en moins, mais je trouve que les joueurs étaient quand même
C'est
encore.
ça, parce que j'aurais bien aimé voir ce dernier quart d'heure à 11 contre 11 avec Lameno qui pousse et tout. Je suis sûr qu'il y aurait peut-être pu avoir peut-être un petit point arraché, on ne sait pas quoi.
Ah, c'est ça, avec un joueur en plus, on l'aurait quand même. Vu comment les joueurs étaient entre guillemets en feu, on aurait peut-être égalisé. On
C'est
a sûrement
ça.
égalisé.
Bah, vu que Lille commençait
Ouais.
à commencer à reculer à la 70e à peu près, bah,
Ouais, c'est ça en fait. Ouais,
ils ne sortaient plus. Même
exactement.
les contres, ils les jouaient pas bien. Les ballons de contre qu'ils ont eus, ils les ont très mal négociés. Donc ils perdaient rapidement le ballon et d'ailleurs ça repartait. Donc ça reculait. Ouais, je pense qu'à 11 contre 11, on aurait peut-être pu récupérer un point qui aurait été un petit peu volé, mais on aurait pu récupérer un point.
Bah, à la
Après,
fin du match, il y a
Lille. Ouais, vas-y.
le coup franc de Gilbert à la fin, il était bien tiré, mais après, bah, c'est un Lillois qui le dégage, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Non, ouais, je pense qu'à 11 contre 11, on aurait pu faire la diff parce que c'est vrai que Lille est quand même assez faible mentalement. Ça fait 2 fois de suite qu'ils vivent un match un peu similaire puisque contre Reims, hein, ils menaient aussi 2-0. Ils ont pris le but du 2-1 bon, vers la 70e aussi, et après ils étaient étouffés. Et je pense qu'à 11, avec l'appui du public et le manque de confiance lillois, et puis quand même notre bonne forme du moment, même si sur ce match on n'était pas forcément très très bon, je pense qu'on aurait pu égaliser parce qu'on les étouffait complètement à la fin. Avec un joueur en moins, ben, ça fait tout de suite plus mal. Donc c'est dommage, franchement, c'est dommage. On aurait pu chercher un point. Je sais pas si quelqu'un a un truc à rajouter sur ça.
Non, on peut passer au duo d'attaque.
Duo d'attaque, donc Gamero, une petite tête de mort, et Diallo, un petit cœur. Je pense que tu as commencé par Gamero.
Bah en fait, je vais faire les deux en même temps, parce qu'à la base, j'étais parti pour ne rien leur mettre du tout aux deux. Mais après, j'ai comparé leur match, j'ai comparé les deux sur leur match. Diallo, il s'est battu, il s'est rendu disponible. Bon, on l'a plus vu en première qu'en deuxième mi-temps. Mais Gamero, par contre, lui, il m'a déçu dans l'envie, en fait. En fait, il se résignait très très vite. Quand il y avait un appel, il faisait deux pas, il voyait que le ballon ne venait pas, il s'arrêtait et il marchait. Et il tentait pas de se replacer, de faire un contre-appel, de partir dans l'autre sens, dans le dos. C'est pas le Gamero. C'était le moins bon match de Gamero, je trouve, qu'il a fait depuis qu'on le revoit. Il manquait de niaque, en fait. Il manquait de niaque. Il s'est résigné très très vite. Et c'est pour ça que j'ai fait un distinguo plus clair entre Diallo et Gamero. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez.
Moi je pense surtout ce qu'il y a avec Gamero, c'est que quand Gamero est arrivé, on s'est attendu à un attaquant qui prend la profondeur, qui court, tu vois. Alors que je pense qu'on aurait plus dû s'attendre à un renard des surfaces. Et ouais, tu dis il court pas, je te rejoins là-dessus. Je suis un peu déçu par les pertes de Gamero en termes de pressing et de jeu sans ballon personnellement. Bon. Il a montré qu'il était capable d'attirer les défenseurs, tout ça, de bien occuper l'espace. Mais dans le reste, je suis pas très. Au niveau du pressing, je suis pas trop satisfait. Et Diallo, c'est dans sa lancée. Hein. Même le match à Lens, je l'avais pas trouvé dégueu. Et c'est bien pour lui qu'il soit en confiance et qu'il perf comme ça.
C'est vrai qu'il a fallu attendre que Diallo rejoue contre son ancien club pour qu'il s'y illustre. Et c'est vrai qu'avec ce derby gagné, ça lance peut-être véritablement la saison de Habib Diallo. Et d'ailleurs, le premier tir cadré du match, bah, c'est Diallo qui le met à la 60e minute. D'ailleurs, peut-être comme un symbole, quoi. Et puis voilà.
C'est un bel arrêt du gardien.
Parce que la frappe il a bien sorti. Hein. C'était une belle occasion. C'est vrai que Diallo est quand même plus en jambes. Là. On l'a senti depuis son pénalty à Lyon.
On le sent plus concerné, surtout, sur le terrain.
Après, je pense qu'il était surtout en manque de confiance, et là, le fait qu'il soit aussi qu'il soit titulaire, parce qu'avant, il était surtout que remplaçant depuis le début de saison.
C'est vrai, ça, ouais.
Oui.
C'est à Angers, quoi. Contre Angers, là, il avait été.
Vas-y.
Non, c'est bon. Je voulais juste dire que c'était que contre Angers qui était titu, et après, je crois que c'est Metz, l'autre match où il est titu.
Il me semble. Moi, Gamero, je l'ai pas trouvé Kata, mais c'est vrai que je l'ai même trouvé pas mauvais dans le pressing, dans le repli défensif, mais c'est vrai que c'est un coup sur deux. Alors un coup c'est très bien, et puis un coup on le sent moins concerné, on le sent un peu, je sais pas comment dire, mais ça manque d'explosivité. Après on a Matteo qui nous dit dans les commentaires que Gamero sans un joueur c'est pas le même, et qu'il est perdu sans un joueur. Alors ça rejoint un peu le premier sujet de l'émission, on parlait du besoin de Ajorque, hein, dans cette attaque. C'est vrai que ça peut aussi expliquer sa performance. Après, contre Lens, ils étaient ensemble, et il n'a pas non plus produit un très grand match.
De toute façon, moi, tu peux résumer ça, en fait. Le Racing sans Ajorque, c'est pas le Racing. C'est pas le même Racing.
Ouais, c'est pas le même.
C'est bien résumé.
Bah, finalement, il y a une sorte d'Ajorque dépendance.
C'est ça, et ça, c'est dangereux.
Et heureusement qu'on a réussi à le conserver lors du mercato.
À mon avis, l'année prochaine.
C'est sûr. Alors, je sais pas jusqu'à quand il court son contrat.
Bah, il a signé l'année dernière, donc.
C'est vrai.
Ouais, ça doit être 2023, 2024, j'imagine. Vu qu'on est sur l'attaque, d'ailleurs, je vais me permettre de donner ma petite stat, moi aussi, les expected goals. On a seulement 0,5 sur ce match, tandis que Lille est à 2,59. Donc bon, niveau,
oui,
niveau bon, des statistiques, la défaite, elle n'est pas volée. Il n'y a pas de ouais. photo. On voit qu'offensivement, qu'on parle de l'attaque, il y avait pas grand chose sur ce match.
Il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Ajorc.
D'accord,
ok. Bon, merci.
Et juste pour terminer la feuille, je vais quand même t'expliquer la tête de mort à Stéphane, peut-être.
Ouais, pour clôturer la feuille.
Ouais, c'est pas mal.
Alors en fait, Stéphane, moi je lui reproche déjà de pas avoir aligné Ajorc et Diallo en début de match. Parce que vu la forme des deux en ce moment, je pense que c'est ce qui aurait été le plus logique. Je lui reproche d'avoir nous avoir réimposé Liénard, qui lui brille par sa nullité en ce moment, et de ne pas avoir sorti Djikou à la mi-temps. Parce qu'il a fait une première mi-temps tellement catastrophique que moi je l'aurais sorti à la mi-temps.
J'aurais fait rentrer Ajorc aussi à la mi-temps.
C'est vrai que faire rentrer à la mi-temps, ça aurait pu être un choix judicieux. Bon, ne pas l'avoir mis titulaire, ça, je peux le comprendre, comme je l'ai expliqué en début d'émission, comme il a participé à tous les matchs en intégralité, à l'exception de celui contre le PSG, quoi.
Ouais. Faut le faire souffler, notre petit Ludo.
C'est ça, on a joué mercredi contre Lens. Mais c'est vrai que le faire rentrer à, 45e, 50e, aurait peut-être été plus judicieux, c'est vrai.
Et puis au final, c'était le bon choix de le faire reposer contre Lille et pas Lens au final. Il fallait le faire reposer contre l'équipe qui, dans le moment, semblait moins forte et surtout moins intense dans l'impact physique. Mais bon, c'est comme Lyon, on s'est trouvé face à une équipe transformée, quoi.
Ouais, voilà. C'est une très bonne remarque. Non, bon, je pense que tout a été dit sur ce défaut. Après, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que ça va faire rentrer à joueur qu'à 45e, 50, c'est bien, mais sortir un attaquant à la 45e, 50e, c'est pas bon pour sa confiance non plus. Donc, je pense que sur ce point-là, il a bien fait de pas sortir Gamero ou Diallo, mais plutôt Gamero aussitôt. Moi, je pense que ça aurait été assez, ça aurait été peut-être bien pour la physionomie du match, hein, mais ça aurait été contre-productif pour le joueur qui sort. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça.
C'est vrai.
Que je vois trop loin, mais...
Non, c'est un élément important.
Non, t'as raison.
C'est un élément bien à prendre en compte ça aussi, ouais.
Bon, ça explique peut-être pas le changement, on va dire, tardif. Hein, mais... voilà. Dernière petite aparté là-dessus, on a quelques commentaires. Il y a Sylvain qui nous dit « Les gens ont mis beaucoup de pression sur Gamero dès le départ ». Ça, c'est pas faux. C'est vrai qu'on l'attendait tous. Après, il a son nom, forcément. C'est obligé qu'on en parle. Je sais pas s'il a mal vécu cette pression. Je pense qu'il a quand même l'habitude, mais ça peut aussi expliquer son début de saison un peu en dessous.
Non, mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on s'est trompé dans le profil de joueur qui est arrivé, en fait. Tout simplement. On s'est attendu à quelque chose qu'il n'est plus.
Bah, il a 34 ans, le garçon, hein.
Eh oui. Et puis, même quand moi, grand fan de, grand supporter du Séville AFC, même à l'époque à Séville, la plupart de ses buts c'était des buts renard de surface, quoi. Ça n'a jamais été le Gamero qu'on dit qui prend la profondeur, tout ça. Donc je pense que c'est plus au niveau des supporters, on s'est un peu trompé sur lui, je pense. Puis comme dit Steve, 34 ans, ça joue.
Alors, trompé, je sais pas, mais c'est vrai que là je le rattrape plus un peu. Voilà, ça sert. Un autre débat aussi.
Sans faire de jeu de mots, les gens ont vu en lui un Messi. Mais Messi dans le sens du terme, hein, pas de comparaison avec Lionel Messi.
Avec un E à la fin.
Voilà, mais il a 34 ans, faut pas trop le demander non plus. Il faut lui laisser le temps parce qu'il s'est entraîné seul pendant longtemps avant de débarquer ici. Donc il faut qu'il se mette en jambes. Bon, ça commence à faire un petit peu long. Là, il y a une trêve internationale qui arrive, faudra voir après.
Et puis ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu. Enfin, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une saison pleine. Donc là, il démarre sur un rythme entre guillemets de saison pleine où il est très souvent titulaire et je pense qu'il avait aussi plus trop l'habitude.
Oui.
Ouais. Mais il l'a jamais vraiment été depuis qu'il est à Valence, quoi.
Ouais, même sa dernière saison à Atlético, il était assez peu titulaire, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on peut clôturer là-dessus cette belle feuille. Feuille très intéressante, il y a eu pas mal de débats.
Oui.
On va pouvoir attaquer les pronos. prochaine rencontre qui samedi 17h, je crois.
Oui, c'est ça. Au stade de la Mosson.
Voilà, le Racing se déplace à la Mosson. Bah, du coup, Andrea, je te laisse l'honneur de démarrer. C'est quoi ton prono pour cette rencontre?
Qu'est-ce que je peux dire comme pronostic? Allez, on va dire 2-0 pour le Racing.
2-0. Pour toi, Steve?
Oh, moi je pense que Montpellier gagnera 1-0. C'est la première défaite que je pronostique de la saison. Mais ouais, je pense que Montpellier, quand même, ils sont quand même bien bien en forme en ce moment. Ils ont perdu de très peu au Parc des Princes ce soir.
Ouais, c'est ça, 2-0.
C'est ça. Donc ils ont pas pris une immense valise comme les victimes désignées qui vont au Parc des Princes. D'ailleurs, pour la parenthèse, Lyon et Lorient ont fait machine à partout. Donc moi, je pense qu'on perdra 1-0. Je supporterai le Racing de très haut parce que je serai dans l'avion à ce moment-là, donc je pourrai même pas voir le match. Donc je vous enverrai des bonnes ondes pour l'émission la semaine prochaine.
Tu vas dans le plus beau pays du monde.
Exactement. Exactement. Un autre pays bleu, blanc, rouge.
Mais bah écoute, on te souhaite à l'avance un bon voyage. Hein.
Merci.
En Islande, si tu dis pas de bêtises.
Vive l'Islande, ouais. Vive l'Islande.
Et puis bah, j'espère que le trajet nous portera chance. Voilà.
Bah, j'espère bien.
Benoît, du coup.
Bah moi je vais être dans la ligne de Steve, hein. Montpellier à la Mosson ça nous réussit très peu, les matchs ont galère à jouer là-bas, je pense qu'on va prendre on va perdre 2-0. Hein.
Ouais. 2-0, bah moi je pense qu'on aura un match un peu spectaculaire comme la saison dernière, je crois qu'on avait perdu 4-3 si je dis pas de bêtises.
C'est ouais. Ça, ouais.
Et pour cette fois, pas de défaite, pas mal de buts, 2 partout moi je dirais pour ce match.
Ouais. Ouais. Petit but de Germain là.
On va pas lui souhaiter de marquer contre nous, mais blague à part, c'est vrai que ça fait plaisir de voir Germain marquer quelques buts avec Montpellier après tout ce qu'il a.
Bah il est bon, hein, il est bon.
À Marseille, tout ce qu'il a pris comme insulte, etc. Moi je suis content, ouais. Petit aparté sur Germain, de le voir, on va dire s'éclater à Montpellier. Il a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. Voilà, c'était le petit mot de la fin sur nos adversaires. D'ailleurs, dernière petite stat, notre dernière victoire à la Mosson. C'était en quelle année pour vous? Je vous laisse deviner.
Alors moi, je me souviens d'un 4-1 avec un quadruplé de Nouma, mais je ne sais pas s'il y en a une autre après ou pas.
Alors c'est l'avant-dernière, celle-là, c'était en 97.
D'accord.
Petite idée, Andrea ou Benoît?
Aucune idée, là, je t'avoue.
2017, non?
Ah, 2004, tu devais avoir un an, toi.
même pas.
On avait gagné 2-1, alors J'ai pas les buteurs, mais c'était la 37e journée de Ligue 1 et Montpellier avait fini dernier de Ligue 1 cette saison. Voilà.
Ah oui, ça va être 2017, on perd 2-1. Merde.
Et pour la petite stat supplémentaire, en score cumulé la saison dernière, Strasbourg-Montpellier, ça donnait 7-5 pour Montpellier.
Ah oui.
Parce qu'il y avait eu 4-3.
Avec le match de coupe ou juste championnat?
Juste championnat.